Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler mode, parce que la mode, ça fait aussi partie de l'histoire. Alors, je sens déjà tous les petits pervers qui ont cliqué sur le podcast en mode chouette, on va parler sain. Alors certes, on va peut-être parler de quelques poitrines, de loin, mais le plus important dans l'histoire du décolleté, ça n'est absolument pas ça, vous allez le voir.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Au fil de l'histoire, le décolleté a en effet énormément évolué. De la pudeur absolue du XVIe siècle à la liberté que nous connaissons aujourd'hui, en passant par les merveilleuses du directoire et leurs robes totalement transparentes, le décolleté a suivi les époques et nous montre qu'il est bien plus qu'un effet de mode. Avant de revenir dessus, il faut peut-être préciser d'ailleurs, grosso modo, ce qu'est un décolleté. C'est en fait la partie de la gorge et des épaules mise à nu, mais également l'échancrure d'une robe ou d'un corsage dégageant le cou, les épaules et parfois la poitrine. C'est important de le préciser parce que même si le décolleté s'est assimilé tout de suite à la poitrine, eh bien, ça n'est pas que ça. D'ailleurs, le sein n'a pas toujours été un symbole de féminité. Durant l'Antiquité, une symbolique totalement opposée va se dessiner entre plusieurs grandes civilisations. La liberté de corps va se heurter à la pudeur et à la réserve. En Égypte ou en Crète, par exemple, la poitrine est une partie du corps qui n'est absolument pas érotisée. Les robes crétoises proposent des corsages rappelant vaguement les corsets que notre société connaîtra au XIXe siècle et qui laissent la poitrine totalement libre. Dans la culture égyptienne, le nu n'est absolument pas tabou au point que les servantes et les esclaves n'étaient généralement vêtus que d'une simple ceinture soulignant leur taille. Cette liberté se ressent aussi dans le costume féminin, dont la forme va peu changer durant plusieurs millénaires. Les robes en lin étaient composées de fourreaux retenus par des bretelles passant ou non sur la poitrine, pouvant être recouvertes de tissus légers et transparents. Dans la société gréco-romaine, en revanche, c'est un autre son de cloche. On est très loin des représentations des Vénus callipyges que nous voyons aujourd'hui dans nos musées. La femme se doit d'être modeste, réservée et discrète. Chez les Grecs, la femme se revêt du chiton, un rectangle de tissu retenu par deux fibules sur les épaules. Et elle ne sort que dissimulée dans son himation, ou pharos, qui la voile entièrement. Il en va de même pour la romaine, qui se dissimule derrière sa pala, bien que sa stola, sa tunique, soit en dessous, ceinturée sous les seins par une cordelette appelée cingulum. La poitrine y est encore moins libre qu'en Grèce, puisque les femmes portent souvent le strophium, une sorte de brassière qui maintient et dissimule la poitrine en tant que sous-vêtement. Et ce qui est incroyable, c'est que cette mode de la tunique romaine va conquérir la Gaule lors des incursions romaines et va profondément marquer le costume au point qu'il restera en grande partie inchangé, bien que modifié en fonction des modes, durant les périodes mérovingiennes et carolingiennes. Autant vous dire qu'on est encore très loin des décolletés plongeants que l'histoire va connaître plus tard. Il faut attendre le XVe siècle pour voir apparaître les premiers décolletés. Avant ça, la société médiévale préfère mettre en avant le ventre et les hanches de la femme. La poitrine se doit alors d'être petite, ronde et discrète, quitte à être bandée, et le ventre, alors vrai centre d'attention de la silhouette féminine, se doit d'être rond, voire proéminent, quitte à rembourrer les robes de petits coussins de crin. C'est Agnès Sorel, la favorite de Charles VII, qui va mettre au goût du jour les robes extrêmement décolletées entre 1440 et 1450. Influencée par la mode de la cour de Lusignan de Chypre, elle aime se vêtir de robes au décolleté en triangle, extrêmement plongeant et délacé, la pointe pouvant arriver jusqu'au nombril. Les peintures qui nous sont parvenues tentent de la représenter tout éteint dehors, comme ils disent. Mais il s'agit plutôt d'un effet de style et très probablement d'un petit clin d'œil du peintre à cette mode dont elle était la porte-parole. Ce décolleté, très compliqué à porter et vivement critiqué par les hommes d'église, disparaît en même temps que la favorite, qui décède en 1450. Le décolleté en triangle est conservé, mais il est masqué par une bande de tissu noir, le tassel. En dessous de la poitrine, la taille est cintrée par une ceinture qui s'appelle le bandier. L'influence de la mode italienne se fera sentir à partir de 1480-90. Les robes se parent de décolletés carrés et plats, assez discrets, les décolletés plongeants étant réservés aux courtisanes et aux prostituées. La beauté est alors au cœur des préoccupations artistiques, le costume devient une parure en lui-même. Au début du XVIe siècle, la garde-robe féminine va s'enrichir d'un des ancêtres du corset que nous connaissons bien aujourd'hui, la basquine. Ce sous-vêtement donne au corsage de la robe un aspect serré et une forme en entonnoir très caractéristique de l'époque. Le décolleté, toujours carré et plat, devient cependant plus large, la poitrine étant soulignée discrètement par les jacerans, des colliers qui viennent se perdre entre les seins. Entre 1540 et 1575, l'Empire des Habsbourg d'Espagne domine complètement l'Europe, qui devient alors le berceau de la contre-réforme catholique. Le décorum espagnol se ressent dans toutes les cours européennes. Résultat, on va commencer à voiler et à masquer le nu dans l'art, quitte à retoucher les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, ou à masquer les sexes des statues antiques avec les fameuses feuilles de vigne. Et évidemment, cette pudeur, voire cette austérité, va également se faire sentir dans le costume. La basquine se modifie et devient le corps busqué, un corset extrêmement rigide qui va aplatir complètement la poitrine. Renforcé par deux lamelles en bois ou en métal sur le devant, le port de ce sous-vêtement demande un certain maintien qui est alors considéré comme un symbole de la droiture de l'âme, rien de moins. Dans la continuité de cette mouvance, le décolleté disparaît totalement à partir de 1560, les cols de robe venant à monter jusque derrière les oreilles. Et là, c'est sûr, c'est moins funky. Mais pas de panique, la société évolue et la mode avec elle. Sous Henri III, la mode va s'éloigner petit à petit de l'austérité espagnole pour proposer des vêtements riches et colorés, bien que toujours très fermés. Les décolletés ne sont alors seulement autorisés que pour les habits de bal ou de grandes occasions, et seulement recouverts de guimpes, un tissu empesé, qui le voile partiellement. C'est également sous son règne que la fameuse fraise va connaître son succès. La fraise se compose de plusieurs étages de dentelle ou de draps amidonnés, voire carrément tendus par des armatures pour les plus extravagantes. Ce qui est drôle avec la mode, c'est qu'on a parfois du mal au premier regard à y trouver un intérêt. Par exemple, la fraise, c'est tout sauf pratique. On en vient même à créer des cuillères avec de longs manches, rien que pour permettre aux gens de s'alimenter. Parce que sinon, leur bras n'est pas assez long pour aller jusqu'à leur bouche. Absurde, non ? Eh bien, oui et non. Parce que la fraise attire l'attention sur le visage, qui est alors considéré comme le pôle d'attraction principal de la silhouette et qui reste la seule partie du corps véritablement découverte. Après la fameuse défaite de l'invincible Armada en 1588, la perte de puissance de l'Espagne va devenir de plus en plus manifeste. Les Espagnols ne dominant plus l'Europe, il est logique que les cours européennes s'éloignent du décorum espagnol et de ses costumes. Adieu les artifices rigides et les couleurs sombres, bonjour les couleurs vives, le faste et la splendeur. Cette volonté de renouveau va se faire ressentir particulièrement dans le premier quart du XVIIe siècle. Sous Henri IV, couronné en 1594, la mode de la cour se part de couleurs très vives et le décolleté chez les femmes s'approfondit. L'ancienne fraise se scinde et s'ouvre en collerette tenue par des armatures. Elle encadre le décolleté qui est quant à lui devenu carré. La poitrine est alors mise en valeur par de très longs colliers à perles à pendeloques, les carcans. Dans les années 1610, le costume s'assouplit encore. Le fameux corps busqué disparaît au profit du corps piqué, plus léger et moins contraignant. Louis XIII va même jusqu'à signer une loi qui interdit la fraise. La collerette du siècle précédent redescend en deux pans de dentelle qui encadrent et mettent en valeur la poitrine, qui n'a plus été aussi libre depuis au moins un siècle. Alors évidemment, cette mode va faire parler d'elle, et le fait que d'un coup on puisse voir apparaître ce genre de décolleté va motiver un certain nombre de personnes à écrire des pamphlets. Déjà, sous Élisabeth Ier d'Angleterre, bon nombre de puritains réclament des robes plus austères. Certains protestants vont même utiliser ce prétexte pour tacler gratuitement les catholiques, qu'ils considèrent comme à l'origine de cette provocation. Évidemment, l'Église catholique n'en est pas en reste non plus, ce qui va amener l'abbé Boileau à publier sa célèbre vindicte de 1677, « Les abus de nudité de gorge ». 128 pages d'une critique amère sur le vêtement féminin, où il prétend que les églises sont devenues des lieux galants où la femme préfère se parer plutôt que de se concentrer sur Dieu. Ah oui, tout de suite, l'église devient moins intéressante. Hein. En tout cas, il y ajoute même « La vue d'un beau saint n'est pas moins dangereuse pour nous que celle d'un basilic. » Oui, c'est vrai. Je l'avoue, c'est dangereux. Sous le règne de Louis XIV, la France prendra peu à peu une place d'importance dans l'esthétique européenne, notamment parce qu'elle prend davantage de pouvoir. Avec la construction de son nouveau château et des fastes qui s'y rattachent, Versailles devient le nouvel arbitre des élégances pour toute l'Europe. Le roi Soleil va même jusqu'à utiliser la mode en accordant ou retirant par brevet le droit de porter tel ou tel vêtement à ses courtisans, ce qui fera même dire à Colbert « La mode est pour la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne ». En bref, il fallait choisir soit les mines, soit la classe. En ce qui concerne le costume féminin, il conserve sa relative simplicité jusqu'en 1660, où il va alors rivaliser avec son homologue masculin. Les robes s'élargissent, se parent de traînes, et les décolletés découvrent totalement les épaules ainsi que l'arrondi de la poitrine, encadré par de la dentelle ou de la mousseline. Le décolleté se fera plus discret à partir de 1670, sous l'influence de Madame de Maintenon, que le roi a épousée en secret en 1683. Très pieuse, elle affectionne des décolletés carrés, encadrés de dentelles, qui rappellent déjà la forme des corsages du XVIIIe siècle. Après le couronnement de Louis XV en 1720, le style rococo fait son apparition. Aujourd'hui, le rococo est surtout sujet de moquerie, une étiquette douteuse qui lui est conférée au XIXe siècle. Et pourtant, il est pendant tout le siècle des Lumières un symbole d'élégance et d'harmonie française où le vêtement est considéré comme un art à part entière. Ainsi, le style rococo se ressent très fort dans le costume féminin. Le décolleté de petits carrés discrets devient un grand carré pigeonnant. La poitrine est d'ailleurs considérée comme un véritable bijou à l'époque, que l'on met en valeur aussi bien par des parures de corsage, colliers, dentelles, que de mouches. Ces fameux petits carrés de taffetas noir gommé, créés vers 1600, qui se collent un peu partout pour flatter la pâleur de la peau. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elles seront utilisées pour mettre en valeur l'arrondi d'un sein. On les nomme les généreuses. D'ailleurs, même la littérature et la peinture libertine de l'époque se focalisent essentiellement sur la gorge, comme on appelait alors le décolleté. Niveau sous-vêtements, le corps piqué devient le corps baleiné. Très resserré sur la taille, il galbe la poitrine et la fait rebondir contre le corsage de la robe, ce qui donne encore plus une vue pigeonnante. Vers 1760, les aristocrates fort influencés par le roman de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, se prennent de passion pour le style campagnard, symbolisant un retour à la nature. Le costume de cour, qui est alors une véritable construction artistique tout sauf confortable, va s'opposer à des vêtements beaucoup plus simples pour la vie de tous les jours. Tirant son inspiration de la mode bourgeoise, les décolletés se font beaucoup plus discrets et sont voilés par des barbes de dentelle et des petits foulards qu'on appelle des fichus de modestie. Cette vague naturaliste va ouvrir la porte au costume anglais qui détrône le costume à la française en 1780, alors suivi dans toute l'Europe. Ce sont les tout débuts de l'anglomanie. La Révolution française de 1789 sonne le glas pour l'ancien régime. Les constructions sociales qui servaient de base au régime monarchique absolu ne sont plus. La bourgeoisie s'empare petit à petit des structures économiques et sociales, et le 29 octobre 1793, le 8 Brumaire de l'an 2 si vous préférez, voit l'abolition des différentes lois somptuaires préexistantes. Une loi somptuaire, pour la petite précision, c'est une loi qui régit les habitudes de consommation comme la nourriture ou le fait de se vêtir comme on veut. Et oui, parce qu'avant ça, tu n'avais pas forcément le droit de te fringuer comme tu voulais. Avec la Révolution, le citoyen est libre de se vêtir comme il le préfère. En réaction à l'ambiance très pesante du régime de la terreur, un courant de mode un peu particulier voit le jour sous le Directoire. La société, toujours fort influencée par l'anglomanie, va aussi se prendre de passion pour le monde antique. Les merveilleuses vont se parer de robes ultra légères, chose inédite dans l'histoire du costume. Inspirées des round gown anglaises, qui étaient au départ une mode réservée aux enfants, les robes proposent une ligne souple au décolleté ultra plongeant, ce qui fait rejeter tout port du corset. La transparence quasi totale des linons et des mousselines ne voile que très peu la poitrine des femmes, la contrainte et l'artifice deviennent complètement démodés. Cette antichomanie, on va l'appeler comme ça, va durer encore quelques temps jusqu'au début du XIXe siècle. La reine Hortense écrira dans ses mémoires « L'art est de couvrir le nu sans le cacher, de draper les formes de manière à les dessiner. » Mais tout ça ne pouvait pas durer. Non, non, non. Et le responsable de l'assagissement général est Napoléon. En 1804, voulant réinstaurer une étiquette de cour après son sacre, il va calmer le jeu autour des tuniques à l'antique qui sont alors dans l'obligation d'être doublées d'une chemise et oblige le port de corsets souples qui ressemblent plus à des brassières masquant les poitrines. Le décolleté carré s'arrondit aux épaules et il est ceinturé juste en dessous des seins en une coupe qui sera d'ailleurs appelée dans l'histoire de la mode la coupe Empire. Les robes se parent de manteaux de robes précieux, très richement brodés, ce qui permet aussi à l'empereur de faire redémarrer la production des manufactures françaises, mise à mal par le monopole anglais, ainsi que par la Révolution française. Oui, vous l'avez compris, on fait évoluer la mode pour stimuler l'économie. Pas bête, hein ? Allez, on va lancer la mode du combo t-shirt slip, une pièce fabriquée dans la Creuse pour rebooster la France. Ça, c'est du bon programme, hein ? Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette idée. Dans les années 1810-1820, les robes se couvrent progressivement de redingotes, de châles, voire même de collerettes qui rappellent vaguement la fraise du XVIe siècle. Le décolleté vit ses dernières heures. Ainsi, il faudra pratiquement plus d'un siècle pour qu'il redevienne un élément d'importance dans le costume féminin. La bourgeoisie fortunée commence également son ascension et va laisser son empreinte sur la mode tout au long de ce siècle. En 1830, le courant du romantisme qui influence les arts va aussi toucher grandement la silhouette féminine. Les tenues, inspirées des modes néo-gothiques et néo-renaissance anglaises, font remonter le décolleté au-dessus des épaules et la taille reprend sa place anatomique, modelée par le fameux corset. De 1950 à 1990, l'Europe rentre de plein pied dans une période de transition qui va poser les fondements de notre société moderne. La révolution industrielle et les évolutions sociales favorisées par le Second Empire et la Troisième République brouillent complètement les repères de la mode. La valeur sociale du costume reste très importante, mais la mode tend vers une liberté nouvelle avec l'apparition de la haute couture et du prêt-à-porter qui permettent d'étendre les tendances à toutes les couches de la société. Cette époque marque aussi la concrétisation de l'idéal bourgeois. Et eux, pour se démarquer, ils décident d'emprunter le chemin de la pudeur poussée à l'extrême, ce qui en devient même ridicule. En journée, pas un seul centimètre de peau ne doit être découvert entre la nuque et les mains. Les seuls décolletés autorisés sont réservés aux habits mondains et aux tenues de bal qui découvrent les bras, les épaules, mais restent très pudiques au niveau de la poitrine. À nouveau, le décolleté trop agressif est synonyme de mauvais goût et d'un style de vie débridé, réservé aux courtisanes et aux autres femmes dites de petite vertu. La baronne de Staff publie d'ailleurs un manuel de savoir-vivre en 1871 appelé « Le cabinet de toilette ». La baronne y donne des conseils de vêture, recommandant à la femme de changer de tenue en fonction des différentes activités de la journée, jonglant entre toilettes de jour, d'après-midi, de promenade ou encore de soirée, où le décolleté ne peut être dévoilé qu'à la condition d'avoir des épaules et des bras irréprochables, la faute de mauvais goût étant considérée à la limite d'une erreur impardonnable. Non seulement il faut que ces femmes changent plusieurs fois de tenue par jour, ce qui est quand même assez embêtant, on ne va pas se le cacher, mais en plus, cette syntaxe de la décence, comme on dit, est tellement compliquée à suivre qu'elle est souvent tournée en ridicule à travers différentes caricatures dans la presse où l'on se moque que le décolleté soit progressif en fonction des occasions. Parler de cette époque sans évoquer le corset serait aussi un grave oubli, vu qu'il va modeler totalement le corps féminin. Influencé par les progrès de la révolution industrielle, il se pare de baleines et d'œillets en métal sur le devant, le rendant beaucoup plus rigide et contraignant. Bien qu'évoluant dans sa forme, il va construire totalement la silhouette pendant plus de 50 ans. Galbant la poitrine, il permet d'affiner la taille de façon significative qui devient alors véritable centre d'intérêt de la silhouette féminine. Ainsi, on dira souvent d'une femme bien mise qu'elle a une taille bien faite, plutôt que de faire des allusions à sa belle gorge comme on pouvait le voir tout au long du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le soutien-gorge est inventé dans les années 1880-1890, mais il ne connaît pas un énorme succès. Il fera les beaux jours de la société moderne après la Grande Guerre. Dès 1900, les mouvements d'émancipation féminin, comme les suffragettes, prennent leur essor et font évoluer lentement les mœurs. C'est à cette époque, par exemple, que l'on voit l'apparition du pantalon féminin. Mais ces changements restent cependant très progressifs, car la société de la Belle Époque est encore très pudique. Bien qu'étant une société qui voue un culte manifeste à l'élégance, la mode reste très sage. Les premiers maillots de bain sont des pièces de laine quasi intégrales, très inconfortables et potentiellement dangereuses, vu le poids qu'elles pouvaient avoir une fois gorgées d'eau. Et ça serait quand même assez ballot de mourir noyé à cause de son maillot de bain. De même, le costume féminin, bien que très raffiné avec ses chemisiers de dentelle, reste très couvrant. Les jupes et les manches sont longues, les cols remontent totalement sur le cou. La silhouette est sculptée par une nouvelle évolution du corset, dit corset droit, qui cambre la taille et met en valeur la chute de rein, ce qui rappelle les lignes sinueuses qui caractérisent l'art nouveau, alors complètement dans l'air du temps. La poitrine a du coup tendance à se faire relativement discrète. La Grande Guerre va entraîner une évolution définitive vers la société moderne, en obligeant les femmes à travailler pour pallier le manque d'hommes et participer à l'effort de guerre. Qui dit vie plus active, dit nécessité de vêtements plus confortables. Le corset déjà assoupli disparaît alors, au profit des premiers soutiens-gorge qui se démocratisent de plus en plus. Comme à chaque grand changement de l'histoire, une nouvelle mode se développe durant les années folles. Sous l'impulsion de Coco Chanel, en 1920, le look de la garçonne fait fureur chez la gente féminine, où le concept de féminité est complètement réinventé. Les cheveux sont courts, les robes deviennent des tuniques coupées droites où la poitrine se doit d'être discrète, au point d'être même bandée sous des bandes velpo. Les jambes, jusqu'alors dissimulées sous les robes, se dévoilent sur les mollets et attirent tous les regards. Mais la mode garçonne est très passagère, et on voit dès 1930 des coupes beaucoup plus cintrées où la taille reprend sa place. On privilégie des décolletés de dos qui peuvent même être assez plongeants. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les restrictions et les rationnements au début des années 1940 empêchent les grandes extravagances vestimentaires. La pénurie et le rationnement incitent les femmes à s'habiller de façon plus courte et plus légère. Le vêtement est alors influencé par le costume militaire dans les coupes droites et carrées. Autant vous dire que le décolleté reste du coup assez modeste. Le New Look que Dior crée en 1947 influence fortement la mode d'après-guerre et va donner cette forme caractéristique à la silhouette que l'on va retrouver tout au long des années 1950. La taille est cintrée, la robe s'ouvre en corolle, la poitrine est galbée grâce à l'apparition de soutiens-gorge à balconnets qui peuvent même être rembourrés. Ce retour à la taille cintrée, vestige des temps heureux du corset, est d'ailleurs un peu ironique à une époque où les femmes sont en train de conquérir des libertés et de nouveaux droits civiques, comme le droit de vote qui est accordé aux femmes le 21 avril 1944. Bien que cette mode tend à remettre en valeur toutes les particularités de la silhouette féminine, le décolleté reste très sage. On privilégie les décolletés bateaux, les coupes pigeonnantes sont surtout portées par des actrices et autres starlettes qui s'émancipent et s'expriment à travers un style ultra glamour. Entre 1960 et 1970, l'émancipation féminine est de plus en plus importante. Beaucoup de femmes travaillent, ont une vie sociale active, et de ce fait, la gamme de prêt-à-porter va de plus en plus se composer de vêtements pratiques. La mode se démocratisant, elle répond à ce besoin d'émancipation au plus grand nombre. Les t-shirts côtoient les blouses totalement transparentes, mises à l'honneur par Yves Saint Laurent, les robes longues du style hippie côtoient les mini-jupes très courtes. L'apparition du monokini en 1964 cristallise cette nouvelle conscience portée sur le corps. Il va alors être de plus en plus difficile de ne qualifier qu'un seul courant, qu'une seule tendance dans la mode, et à plus forte raison, dans le décolleté. Cette avancée va encore se manifester dans les années 1980, où des créateurs comme Chantal Thomas et Jean-Paul Gaultier vont donner une place d'honneur aux sous-vêtements. Les guêpières et autres corsets sont par exemple portés au-dessus des vêtements. Qui ne se souvient pas, par exemple, du soutien-gorge délibérément provocateur porté par Madonna ? Cette tendance va se perpétuer tout au long des années 1990, jusqu'à arriver dans les années 2000 avec la mode des décolletés extravagants et ultra-plongeants, mis en valeur par la démocratisation de célèbres sous-vêtements push-up tels que les Wonder Bra. En fait, au fur et à mesure que les anciennes structures s'affaiblissent, l'individu s'affirme et la mode va se structurer encore. Aujourd'hui, nous arrivons à une façon de s'habiller totalement unique où l'humain, et la femme en particulier, reste libre de porter ce qu'elle veut selon sa propre personnalité. Le vêtement n'est plus un signe de ralliement à une classe sociale ou à un statut bien défini, ou en tout cas beaucoup moins. C'est plus un moyen de s'exprimer d'une façon unique. Nous allons clairement vers une société beaucoup plus démocratique et respectueuse des différences, dont le décolleté est un excellent témoignage. Maintenant, il ne faut pas oublier que la mode est toujours un éternel recommencement et que nous ne sommes pas à l'abri de revenir à des trucs qui, aujourd'hui, nous semblent assez inimaginables. Merci à Mamzelle Rêve, spécialiste de l'histoire de la mode, pour la présentation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.